Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les webzones de Comme à la radio. Il est 18h, nous sommes le samedi 28 novembre 2020. Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de la Culture Club, culture électronique et fête à Lille et sa métropole. Initiative de Haute Fidélité, réseau des Hauts-de-France consacré aux musiques actuelles sous l'impulsion du projet Culture Barbare. Je serai aujourd'hui accompagné d'Antoine Cordier de Haute Fidélité qui va nous expliquer le pourquoi du comment de cette émission.
Pour présenter un peu le projet, donc du coup moi je me présente, je suis Antoine et je suis chargé d'études au sein de Haute Fidélité qui est le réseau régional musique actuelle des Hauts-de-France. Et je serai accompagné donc par Antonin de Comme à la radio pour animer cette rencontre autour de la place des musiques électroniques. Donc Comme à la qui est une web radio lilloise, pour ceux qui ne connaissent pas, autour des musiques global groove comme ses programmateurs la définissent. Du coup, je tiens à vous remercier déjà de nous rejoindre pour ce temps d'échange sur la place des musiques électroniques à Lille et dans ses environs. Donc un petit rappel sur le pourquoi du comment de ce temps. Donc cette rencontre s'inscrit dans le cadre des états généraux du droit à la fête, qui est une initiative nationale portée par le collectif Culture Barbare, donc une fédération de cafés-concerts qui est basée à Nantes et qui organise chaque année le festival Culture Barbare, qui est une opération de visibilité et d'organisation de concerts dans des cafés-concerts dans toute la France. Donc forcément, cette année, vu le contexte actuel, ce festival prend une forme différente. Et l'objectif donc de cette rencontre virtuelle est donc de donner la parole à des acteurs qui agissent dans le spectre large de la fête, de faire entendre les positions de chacun, leur point de vue, et aussi d'imaginer des perspectives un peu plus réjouissantes. Et le but final donc est de rédiger une sorte de livre blanc qui sera soumis par le collectif Culture Barbare à l'Assemblée nationale. Voilà, donc avec Comala, on a profité de cette occasion pour évoquer un sujet qui nous tenait à cœur et qui nous semblait intéressant d'interroger aujourd'hui, à l'heure où l'ensemble des acteurs de la musique et de la fête sont à l'arrêt. Donc c'est l'occasion d'évoquer à la fois la place des musiques électroniques dans la métropole, les enjeux auxquels les acteurs qui portent ces musiques-là sont confrontés, peut-être aussi de faire émerger des difficultés qui peuvent être vécues par ces acteurs et de faire une sorte d'état des lieux de l'existant tel qu'il était avant la crise. Cette discussion est aussi l'occasion de se rencontrer et d'apprendre à se connaître parce que on a voulu mobiliser différents types d'acteurs. Donc aujourd'hui, on aura autour de la table des petites associations qui portent des soirées ponctuelles sans lieu fixe, des festivals, un club aussi, une émission de radio. Enfin voilà, on voulait avoir une sorte de représentativité de différents acteurs qui portent la fête, ou en tout cas qui organisent des événements de musique électronique festifs à Lille. Voilà, donc je vais peut-être laisser la parole à Antonin pour que tu présentes un peu qui nous avons autour de la table.
Donc autour de nous en visio, dans vos oreilles, nous avons Martine Aubry, voilà, organisation lilloise. Aujourd'hui, en tant que représentant, nous avons Léni et Rémi qui sont autour de la table pour cette émission. Nous avons également Sabine Dutoit de Harpoème, organisatrice du NAME Festival, qui a fêté déjà ses 15 ans l'an passé, donc 15 ans d'existence, même 16 cette année. Nous avons également Jean-Baptiste Trévillon, directeur du festival Jardin électronique, débuté en 2014. Un bon paquet d'éditions, on en reparlera avec lui. Nous avons également l'émission, les organisatrices d'événements, Sofiana et Mathilde de What's Up on the Floor sur RCV 99FM, et également Corentin Mollet, voilà, de Gazole, directeur artistique aussi de La Relève, club lillois. On va peut-être, pour débuter, pour faire plus ample connaissance, faire un rapide tour de table de chacun et de que chacun nous exprime un petit peu qu'est-ce qui l'a mis un petit peu dans la culture électronique, que ce soit une première expérience de soirée, que ce soit un premier disque écouté, et puis que l'on fasse un petit tour de table de qu'est-ce qui vous a mis dans cette culture électronique et culture club à Lille. On va peut-être commencer par Martine Aubry, Lenny et Rémi.
Moi, ce qui m'a amené vraiment, on va dire, dans les musiques électroniques et plus globalement un peu la culture club et la culture de la fête, la première expérience un peu fondatrice, ça a été le festival Astropolis à Brest, qui a été vraiment le premier gros festival techno et expérience bénévole de l'intérieur, et qui s'est prolongé en fait par la suite quand je suis parti à Glasgow en Écosse pendant un an, où là-bas, j'ai été intégré dans une bande de potes qui organisait des soirées assez régulièrement au Sub Club, et où j'ai vraiment découvert la culture de la fête à l'anglaise. Le Sub Club, c'est quand même un club assez géniaux, on va dire assez mythique, c'est un des plus vieux clubs du monde. Et puis derrière, toute cette culture de l'after party, où on se retrouvait dans des apparts avec des DJ dans la cuisine, et où voilà, il y avait tout ce moment aussi de discussion, de rencontres, d'émulsion en fait autour des musiques, qui a fait que je suis tombé un peu amoureux de cette culture et des gens qui la font, concrètement.
Et donc pour ma part, c'est un peu différent. Donc moi, j'ai toujours eu un intérêt pour la musique électronique via mon père, qui était musicien dans ce domaine-là, qui a des synthés, des choses comme ça. J'ai commencé à mixer assez jeune, vers 15 ans, et c'est en allant dans des clubs en Belgique, surtout dans un club qui s'appelait Le Bis, qui était à 10 minutes de chez moi à vélo, où j'allais à 16 ans avec des potes, je me souviens, à vélo. Donc c'était pas hyper pointu musicalement, mais c'était de la musique électronique. Et puis après, de fil en aiguille, donc je suis devenu. Enfin, mes goûts se sont affinés. J'ai commencé à organiser des événements à côté du fait que je mixais. Pareil, en commençant par de la musique un peu généraliste pour aller vers des trucs de plus en plus pointus, jusqu'à arriver à Lille pour mes études et organiser des soirées là-bas, mixer aussi pas mal.
Ok. Peut-être la parole à Sabine. Quelle a été la première émotion qui t'a mis dans cette culture de musique électronique?
Alors, moi, je vais faire figure de dinosaure, parce que ça nous remonte au début des années 90. Ne rigole pas, Jean-Baptiste, je suis désolée, c'est vrai. Où on a un lieu à Roubaix, nous, où on habite et on travaille, on a une grande salle et on a commencé à faire venir des DJ anglais et on a commencé à ouvrir un truc assez récurrent, mais pas légal, sur carte de membre. D'ailleurs, la carte de membre, c'était une tête de vache. Et voilà. Et donc, je suis rentrée comme ça. Et après, bien sûr, le Rex Club, bien sûr, des raves, jusqu'à aller en faire une dans une centrale nucléaire en Ukraine. Enfin, c'était vraiment le mouvement nouveau, délirant, les travelers, les machins et tout ça. Voilà.
Merci. Et pour toi, Jean-Baptiste, Jardin électronique, qu'est-ce qui t'a mis le pied dans la musique électronique ?
Comme beaucoup, en fait, c'était j'avais pas mal de copains qui écoutaient de la musique électronique, qui commençaient à pousser des disques. Bon, je vous parle de ça, ça fait déjà une vingtaine d'années. Bon, entre deux pour Sabine. Et puis petit à petit, en fait, ces mêmes copains sont venus organiser des free parties autour de Paris. Je me souviens, en fait, c'était des moments où on se retrouvait, on faisait la fête. Ce que je trouvais vraiment fort, ce qui m'a marqué, c'est que c'est des moments un peu intemporels où les gens étaient soudés, ils étaient unis. En fait, la fête, c'est quelque chose qui nous rendait vraiment heureux. On partageait quelque chose. Donc, c'est là, en fait, où j'ai eu, quelque part, mes premiers sentiments avec la musique électronique. Et en arrivant sur l'île, avec quelques copains, on a commencé aussi, pendant 6 ou 7 ans, à faire nos soirées dans des cafés-concerts, sans pouvoir en reparler plus tard, parce que c'est un maillon qui manque de plus en plus dans la chaîne, je trouve, aujourd'hui. On a commencé à faire nos organisations sur la place du marché d'Oisem pour la braderie, la fête de la musique. C'était pas non plus forcément autorisé, mais bon, on le faisait et on trouvait ça marrant. Jusqu'au jardin électronique aujourd'hui, voilà, c'est un nouveau projet et un nouveau tournant dans nos vies.
Merci. Je passe la parole à What's Up on the Floor, Sophie, Anna et Mathilde.
Coucou, oui, j'allume mon micro du coup. Donc moi, c'est Mathilde. Moi, alors, ça a été plutôt découverte de la musique électronique quand j'étais jeune, Pierre-Henri notamment. Et puis ensuite, la génération où j'étais adolescente et où il y avait les Daft Punk, la French Touch entre guillemets qui m'a menée jusqu'au free party de la Citadelle de Lille, également des initiatives de art.m où j'allais quand j'étais plus jeune, où mes parents m'emmenaient aussi. En fait, ils étaient clients, des clients potentiels, je veux dire, de ce qui se passait du côté de Roubaix, parce que je suis de Roubaix. Et puis j'ai eu la chance de partir en Angleterre justement pour découvrir aussi la scène musicale anglaise. Puis je suis partie vivre en Belgique une dizaine d'années où j'ai pu profiter des clubs belges et de la culture aussi new beat que la Belgique porte. Et de retour à Lille, enfin j'ai toujours animé une émission de radio depuis, ça fait maintenant une quinzaine d'années, ma première était en Belgique. Et de fil en aiguille, cette émission de What's Up on the Floor qu'on a commencé il y a 2 ans maintenant, disons, nous pousse à aller chercher un petit peu plus loin sur l'existant.
Ben pour ma part, donc, puisque je suis le binôme de cette émission, ma culture électronique, c'était d'abord des groupes de musique indé, en fait, quand j'étais plus jeune. Du synthé, des pédales à effet sur les voix, etc., avec des groupes comme Crystal Castles, etc. Mais du coup, pas trop de culture club. Quelques raves et quelques free parties quand j'étais en Belgique. Mais encore une fois, les clubs, je connaissais pas. C'était les boîtes, c'était un milieu vraiment... qui m'attirait pas du tout. Et puis je suis allée en fait vivre à Berlin parce que j'appréciais la culture artistique là-bas. J'aimais bien la vibe, mais j'étais pas du tout au courant en fait pour tout le délire techno. Enfin, j'étais au courant, mais c'était pas ça qui m'attirait à la base. Et puis en fait, bon bah voilà, j'ai complètement plongé dedans. Je vous passe un peu les détails des fêtes pendant 3 jours, des rencontres qui vont avec, toutes les découvertes musicales. Enfin, ça s'arrête jamais. Et du coup, je devais passer 1 an là-bas et j'en ai passé 3 en partie pour ça. Donc j'ai fini par revenir en France en fait pour reprendre mes études. Et c'est là que Mathilde m'a proposé de participer à cette émission sur les musiques électroniques qui m'a permis en effet de creuser ce qui se passait à Lille. Ça m'a permis aussi de combler un peu le vide entre la vie nocturne à Berlin et puis la vie à Lille. Je me disais que j'allais sûrement connaître des étapes de vie de fête, mais en fait ça nous a vraiment forcé à aller voir chaque semaine ce qui se passait le week-end d'après et de découvrir plein de collectifs qui manquaient de visibilité, mais ça on en reparlera après.
Très bien. Et Corentin, collectif Gazole, La Relève, quelle est ton entrée à toi dans la musique électronique?
Hello. J'ai grandi en fait à la frontière belge, donc forcément j'ai été très vite projeté vers les clubs frontaliers, dont le Bliss, un peu comme Rémi, club qui était très proche de chez moi. Et ensuite, naturellement, vers l'H2O et At The Villa, qui ont été fondateurs dans ma découverte de la musique électronique, principalement la White Room à l'H2O, puis ensuite At The Villa. Et de là, avec une bande d'amis, tous dans la même optique, avec la même passion, on a voulu aller plus loin et puis proposer et mettre en avant nos goûts musicaux à travers la création d'événements et le label aussi. C'est avant tout une histoire de rencontre et d'échange en fait sur le moment présent au début.
Je vais maintenant me tourner vers toi, Antonin, et te poser la même question. Comment tu es arrivé dans la musique électronique et comment tu es arrivé à monter aussi Comala et Soupa Groovalistique, qui sont deux projets liés?
Alors oui, c'est vrai qu'on est dans la musique électronique, mais pas que. Alors notre entrée, elle est un peu différente de chacun de vous, chacune de vous. C'est-à-dire que nous, on est plutôt sur une culture de musique groove, funk à la base, soul, ce hip-hop. Et on a rapidement allé sur des musiques électroniques par le biais d'une culture anglaise, de DJ qui mélangeait les styles, mélangeait les différentes sonorités. Et c'est plus des festivals comme le Worldwide et Gilles Peterson qui nous ont beaucoup influencés. Et c'est cette idée-là de mélanger un peu les styles. Et forcément, la culture électronique a une place dans notre projet, que ce soit sur Soupa Groovalistique ou comme à la radio. Mais c'est moins strict musique électronique, c'est un peu plus large que tu disais en introduction, l'idée de Global Groove, voilà, pour faire une petite présentation. We'll be right back. Moi, dans ce que j'entends dans tous les témoignages, c'est rigolo, c'est qu'il y a des choses qui sont piquées à gauche à droite, que ce soit aller chercher de la musique dans les clubs en Belgique, que ce soit aller chercher dans la culture anglaise ou dans la culture aussi, j'ai entendu plusieurs fois Berlin revenir, voilà, ces grandes villes, ces grandes cités qui ont, en Europe du moins, fait développer la musique électronique. On dit souvent Lille est quand même géographiquement un carrefour, c'est-à-dire qu'on est situé un peu entre tous ces pays-là. Et quelle est pour vous la porte d'entrée pour aller danser à Lille ou aller écouter de la musique club? Peut-être passer la parole à Sabine du Art.m pour le Name Festival.
Moi, j'ai un peu du mal à répondre à cette question. Parce que ça s'est fait au fur et à mesure des ouvertures et des fermetures. Donc, alors attendez que j'essaye de me retrouver. Il y a eu le supermarket, le kiosque, puis le magazine. Après, à Lille stricto sensu. Comme moi, j'habite à Roubaix. C'est très pratique, hein. C'est difficile de bosser puis de dire bah tiens, je prends ma bagnole et je vais aller voir un coup. À Lille, et puis bon, après la vie familiale, tout ça. Quand j'habitais Roubaix, que j'avais une vingtaine d'années, je prenais plus ma bagnole, mais il y avait pas de truc électro, quoi. Après, effectivement, on allait parce que les APM, donc soit Thierry, Fanny et Seb, ont joué au kiosque, au magazine, en résidence, effectivement. Mais sinon, après, moins. Mais par contre. Comme tu disais sur le fait de voyager, oui, beaucoup pour aller en festival, pour aller à Berlin se faire le week-end du 1er mai, pour aller à Londres, ou à Paris, quoi. Voilà.
J'ai peut-être la parole à What's Up on the Floor, Sofiana ou Mathilde.
Nous, on a généralement tendance à sortir de Lille quand on a envie de voir des choses plus spectaculaires. Donc, par habitude, j'ai plus tendance à aller vers Amsterdam, qui est une scène assez riche, en tout cas actuellement en termes de musique électronique. Bruxelles et quand j'ai la possibilité Barcelone, je trouve que c'est vraiment les terreaux qui m'inspirent. Maintenant, c'est vrai que actuellement la scène lilloise en termes de clubs, pour moi, elle n'existe pas vraiment. Il y a des actions ponctuelles et des événements ponctuels qui sont montés par des collectifs et qui sont très très intéressants. Martine Aubry, par exemple, plein d'initiatives de collectifs qui sont ponctuelles, mais c'est vrai que j'ai pas de club de référence ou d'espace spécifique où j'aurais envie de sortir pour écouter de la musique électronique. Maintenant, le Baron est le club qui est ouvert tout le temps, gratuit et accessible tous les week-ends. Donc, ce serait vraiment le seul lieu pour moi qui serait la base technique en fait d'une vie de club à Lille en fait. Hein. Je sais pas si Sophie tu veux t'exprimer.
Ouais, bah pour ma part, je citerai également le troisième étage rue Ernest de Conin, justement, où la Martine Aubry a choisi de s'installer. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire s'installer, mais en tout cas de faire des soirées régulièrement. Et justement, en parlant de porte d'entrée à des univers un peu extérieurs, il y avait aussi dans ce même lieu la DIRT qui était organisée depuis récemment, puisqu'avant c'était des événements plutôt privés en cave, mais ils ont monté quelques paliers en choisissant cet endroit aussi. C'était fait, enfin je parle de ça au passé évidemment, mais des fêtes assez cool, assez safe, assez queer, avec de la techno, mais pas que, où il y avait notamment Romy, Arjane qui mixait et qui passait facilement du Queen à la techno. Ça, c'était en effet un lieu où je trouvais qu'il y avait pas mal d'ouverture.
Également, c'est vrai qu'on ne l'a pas parlé, mais l'initiative de la Choupichatte.
Ouais, qui existe qui également pendant les confinements sur Zoom.
Sur voilà. Zoom, et qui, aussi, qui organise aussi régulièrement des événements dans un cadre privé. Et puis on a également les collectifs qu'on côtoie et qu'on reçoit qui organisent des soirées mais qui ne sont pas dites légales, quoi, qui s'organisent voilà. De façon rave party, mais dans un cadre qui est beaucoup plus fun que ce qu'on pouvait trouver il y a une quinzaine d'années dans les prairies de Belgique, par exemple.
Ouais, du coup c'est des choses qui sont pas toujours visibles et qu'il faut vraiment
aller chercher, vraiment chercher, mais qui existent. Et qui font partie pour nous de la fête, quoi.
Ok. Vous parliez de Martine Aubry, on va peut-être vous laisser la parole. Lénie et Rémi, pourquoi vous avez monté cette soirée-là dans ce troisième étage du Smile Club? C'était quoi l'idée de départ?
Il faut situer une chose, c'est que Martine Aubry, c'est l'union de trois assos, trois collectifs. Donc, il y a l'asso de Lénie, qui s'appelle Stick to the Groove. Il y a une autre asso qui est représentée par des gars, des bons copains, qui est Don't Kill My Vibe. Et il y a la mienne qui s'appelle Business. En fait, à trois, on organisait déjà des événements, des fêtes, en fait, sur l'île depuis 5-6 ans dans ces eaux-là, quoi. Et à force de se fréquenter, à force de devenir potes, on s'est décidé à organiser un événement ensemble. Moi, j'avais déjà organisé avec Business un premier événement, donc dans ce fameux deuxième étage du Smile. Et on a décidé de faire une fête récurrente là-bas, en mettant en pratique en fait tout ce qu'on avait pu apprendre de par le passé sur ce qui faisait une bonne fête et nos goûts musicaux, nos envies et même nos valeurs. On avait envie de transmettre tout ça dans cette soirée.
Et puis voilà, effectivement, comme on était un grand cercle d'amis, il y avait aussi l'idée de mutualiser les forces, les envies et les compétences ensemble et de porter ensemble une vision de la fête qui nous correspondait. Après, pour rebondir sur ta première question, c'est vrai qu'à Lille, effectivement, pour la musique électronique, c'est souvent soit des choses très ponctuelles, donc dans des lieux à droite à gauche, mais qui souvent sont assez précaires puisque ça varie, enfin ça ferme, ou alors les patrons changent d'avis, ou ça peut être aussi dans la sphère privée beaucoup, on se rencontre chez les uns les autres dans des soirées, également dans les bars. Après, effectivement, je pense qu'on peut quand même saluer le travail qu'a réalisé Corentin à La Relève, parce qu'effectivement, La Relève est un club qui existe de manière permanente, qui était ouvert en tout cas tous les week-ends. Et il y a vraiment eu quand même un avant et un après l'arrivée de Corentin, où Coco, il pourra mieux en parler que moi, mais il a quand même bossé sur une direction artistique. Il a quand même des résidents qui sont là régulièrement et qui savent ce qu'ils font musicalement parlant. Et surtout, il a contribué à apporter dans ce club des éléments qui n'y étaient pas forcément avant et qui contribuent à créer l'atmosphère de la fête qu'on cherche, en fait. Un endroit qui peut être un peu sombre, où on peut se relâcher sur la piste, où on a un staff qui est super sympa, où on se sent un peu chez soi, quoi. Donc là-dessus, c'est vrai que effectivement, il y avait le Baron qui est ouvert de manière un peu permanente. Il y a également le magazine quand même qui a des soirées régulières, mais je trouve qu'à La Relève, il y a un vrai boulot qui a été fait et qui a apporté quelque chose, en tout cas pour les gens fans des musiques que Coco défend au travers de sa direction artistique.
En fait, je rebondis juste, mais je trouve que c'est à La Relève où il y a le plus qui pourrait ressembler à une scène à Lille, parce qu'il y a même une équipe de DJ résidents qui sont lillois, lilloises. Et donc, s'il y avait un semblant de scène à Lille, sachant que pour moi, mais c'est mon avis, il n'y a pas vraiment de scène électronique à Lille, mais s'il y avait un semblant de scène, pour moi, ce serait la relève qui porterait un peu le truc, aussi parce que c'est ouvert 5 jours sur 7. Quoi.
La transition est toute trouvée. Corentin, Gazol, La Relève, je te laisse la parole.
Merci pour ces mots doux déjà. C'est vrai que on a essayé de bâtir un projet assez cool dès le début. On prend une équipe de résidents assez costaud. Je pense que toute l'équipe et à tous les mecs dans l'équipe de résidents ont tous un certain background, aussi bien dans leur investissement personnel dans la musique, c'est-à-dire que beaucoup ont des labels, sont producteurs ou promoteurs de soirées, mais font des choses aussi ailleurs qu'à La Relève. Il y a quand même une équipe très solide. Et puis derrière, en fait, avec le budget qu'on a, en fait, ce qui est compliqué à Lille, c'est que toutes les entrées sont gratuites partout et que c'est compliqué de faire payer l'entrée à quelqu'un, sauf pour des grosses têtes d'affiche. Donc avec les moyens qu'on a, on essaye de proposer une programmation un peu variée avec beaucoup de Français, en fait, de toutes les villes de France, un peu tous les jeunes un peu équivalents à nos résidents qui montent des projets ou des labels dans d'autres villes de France, qui viennent se produire chez nous tous les week-ends quasiment. Ça permet de proposer autre chose. On n'est pas sur le même créneau que le Baron, qui est beaucoup plus techno, 100%. On prône la house, la minimale aussi. On fait beaucoup moins de techno, clairement, de techno pur et dur, comme le Baron veut le faire. Voilà, en fait, le projet est basé aussi sur... Si ça marche comme ça, c'est surtout parce que c'est très familial, en fait. Le nouveau patron est incroyable, tout le staff est très cool, et en fait on fonctionne aussi avec donc Team Avec, par exemple, avec qui on bosse depuis le début et qui font des soirées récurrentes. Donc on bosse comme ça, avec un roulement de label lillois, nos résidents et puis des invités en plus français. Donc on essaie de créer cette atmosphère là et puis en fait, disons que tous les gens qui viennent chez nous se sentent à l'aise. C'est un peu le but. On compense un peu le mauvais placement de l'endroit par rapport à ce que vous proposez par la convivialité qui règne au club. Je pense avoir résumé le plus simplement possible la boutique, comme on l'appelle.
Très bien. Alors on se rend compte que là on a parlé pas mal du format club, l'idée de plutôt de cette scène nocturne. On va redonner la parole au Jardin Électronique, qui a développé pour le coup un format un peu différent, puisque c'est un format en extérieur, événementiel, qui était déjà mis en place notamment par le Name Festival, mais pour le coup là un événement qui est un format un peu particulier. Pourquoi avoir choisi d'avoir fait un événement un dimanche après-midi? Je sais que pour notre part, à Comala, on a aussi développé ce format-là, notamment à l'Institut pour la photographie l'an passé, sur des dimanches après-midi, que c'était pour nous aussi une volonté d'aller sur un autre type de fête. C'était quoi le projet de départ avec le Jardin Électronique sur le format dimanche?
Je vais être assez basico-basique. En fait, à la base, on voulait faire juste une teuf pour nous et nos potes. On pensait qu'on allait être quoi, à peu près 200. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que beaucoup de gens attendaient de faire la fête comme ça en extérieur. En fait, j'avais déclaré 200 personnes à la ville de Lille, qui sont venues à 2000. Je te cache pas qu'on a... C'était un peu le stress, il a fallu suivre le truc, parce qu'on n'était pas du tout habitué à ça. Mais l'idée pour nous, c'était vraiment voilà cette idée de fête en journée, c'est friendly, c'est plus cool, c'est un peu plus chill. C'est différenciant, tout simplement parce que la majeure partie des fêtes dans lesquelles on allait, c'était en nocturne. Et on avait découvert ce format en région parisienne, en Hollande et dans d'autres lieux d'Europe. Et on s'était dit, mais waouh, mais il faut ce truc à Lille, quoi. On le voulait pour nous, donc en fait, à la base, on l'a créé pour nous, tout simplement. Donc on a créé ça avec plusieurs collectifs, plusieurs assos qui sont venus jouer les premières années. Et l'idée, en fait, ça reste toujours la même, c'est-à-dire de pouvoir proposer une scène qui grandit un petit peu chaque année pour des artistes émergents. L'idée, c'est aussi de pouvoir proposer quelque chose de visible et une autre manière de s'exprimer, tout simplement.
cases, reproduct, and everywhere.
Oh,
Très bien. Sur les formats aussi, on peut envisager de réfléchir sur le lien qu'il peut y avoir avec les scènes de musique qui sont très fortes à Lille. Hein. Je pense à, il y a de nombreuses salles, je pense au SMAC qui sont nombreuses dans la métropole. Néanmoins, on sent que il n'y a pas nécessairement dans les organisations aujourd'hui qui sont autour de la table de lien fort avec ces lieux-là. Je vais peut-être faire intervenir Sabine, qui pour le coup, ça fait un moment que vous êtes sur le terrain. Et néanmoins, on ne vous voit pas tous les quatre matins collaborer avec l'aéronef, le Grand Mix, certes la condition publique qui est une fabrique culturelle. Comment ça se passe, les connexions avec ces lieux de musique qui sont peut-être plus rock au départ, mais qui, on le voit notamment en France, sur d'autres SMAC, je pense à Grenoble, notamment Label Électrique, qui s'ouvre de plus en plus aux musiques électroniques. Comment les liens se font ou ne se font pas avec les lieux de musique?
Moi, je pense que déjà pour collaborer, il faut qu'il y ait des personnes. C'est pas, moi, je travaille pas en disant, il faut, je me mets pas un organigramme en disant, tiens, je vais collaborer avec les SMAC, les associations et ainsi de suite. Donc, je me mets pas un propre cahier des charges. On a une très bonne entente avec le directeur de l'aéronef. Donc l'année dernière, on devait collaborer ensemble sur le concert de je sais plus quel artiste et au final ça a pas abouti. Mais bon, voilà, il y a des discussions régulières. On commence depuis quelques mois à discuter avec Jean-Baptiste. On a beaucoup collaboré avec le Magazine Club et l'équipe P.O. Watson. Après, il y a dans le cadre du NAME une volonté de collaborer avec pas mal de structures par le module Name in the City, le Name dans la ville. Donc, effectivement, on n'a pas collaboré avec Martine Aubruit, mais on a fait des trucs à la relève, il me semble bien. Mais le Antoine qui est à côté de toi, il pourrait mieux en parler que moi, parce que c'est d'abord lui qui s'en est occupé plus. Mais l'idée, c'était d'avoir, oui, une collaboration et de se dire que le NAME, alors je sais bien que le NAME, il fait figure un peu de mastodonte, gnagnan, mais c'est pas du tout l'état d'esprit ici. Mais oui, c'est ça, l'esprit de collaboration, on l'a, mais on se force pas à le faire non plus. La collaboration, elle doit se faire par des rencontres, par une opportunité, par une idée, par un échange. C'est pas tout le temps, ça peut pas être à sens unique.
Peut-être le jardin électronique là-dessus, parce que je sais que vous avez aussi développé une formule festival juste avant la crise du coronavirus en février, au Grand Sud. Peut-être évoquer ça.
Oui, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir avoir le Grand Sud pour faire notre première édition du jardin d'hiver, donc à 2 semaines du confinement. Je ne vous cache pas que c'était un peu le stress en arrivant à l'événement. On avait avancé quasiment tous les budgets et voilà, on a marché un petit peu sur des œufs, je ne vous cache pas. C'est un projet, ça faisait à peu près 4 ans qu'on faisait la demande, qu'on essayait de pouvoir disposer du lieu pour pouvoir exprimer une fête. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. Bon, on a observé des choses forcément à améliorer, mais bon, c'est comme tout. Hein. On essaie, on apprend, on essaie, on apprend. On est toujours dans cette dynamique-là d'essayer de continuer à évoluer, d'apprendre et d'améliorer l'accueil et les événements. Donc voilà, je ne sais pas quoi te dire de plus.
C'est chouette. On va peut-être évoquer les modèles sur lesquels sont organisés vos événements. Tu nous parlais tout à l'heure, notamment Corentin, d'une idée de gratuité, notamment sur la Culture Club. Comment chacun d'entre vous envisage son modèle économique? Alors, je sais qu'on a différents niveaux d'organisation. Hein, autour de la table, on a des sociétés, on a des associations, on a des collectifs. Comment ça se passe et comment vous envisagez les choses par rapport à la métropole lilloise? Peut-être donner la parole d'abord à Corentin qui nous en parlait tout à l'heure. Vous avez fait le choix d'une gratuité. Est-ce que tu peux nous en parler?
En fait, c'est un choix sans en être un, parce que clairement, par exemple, les autres clubs, centre-ville, sont gratuits. Et ça fait des années, c'est comme ça à Lille, en fait. Et nous, quand on faisait un ou deux artistes par mois, donc ils sont sûrement pas des artistes qui parlent à tout le monde, forcément, mais qui sont quand même dans notre style de son, imaginons, minimal, des références. On a eu quand même des noms sympas, des Dalgarda, des Nicolas Lutz, etc., qui sont pour moi des très grands noms, mais qui parlent pas à tout le monde à Lille. Et même faire payer 5 euros l'entrée pour ces noms-là, t'avais des gens qui faisaient demi-tour, qui disaient, bah non, on vient pas pour ça, nous, on veut On peut entrer gratuit, c'est comme ça à Lille, on va aller au Baron, du coup c'est à côté, puis c'est gratuit. Donc en fait, cette politique, elle a été mise en place malgré nous un peu. Donc forcément, faire une entrée gratuite, ça ne permet pas de faire les mêmes shows artistiques. Tu peux pas créer un système d'éducation musicale, peut-être apporter quelque chose de nouveau à la ville. C'est beaucoup plus compliqué. Tu dois un peu jouer avec ton réseau, les gens que tu connais, essayer de tirer des prix, tout ça. Tu peux pas vraiment faire des artistes le week-end. Mis à part si tu mets une tête d'affiche, une grosse tête d'affiche techno et puis t'as une grosse structure, mais pour les petits clubs, c'est très compliqué de faire payer une entrée.
Alors je vais rebondir avec Martine Aubry qui pour le coup, en tant qu'organisation, vous organisez pour le coup une soirée dans un club et vous, l'idée c'est quand même d'avoir une entrée payante. Pourquoi ce choix et est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est quelque chose qui était volontaire de votre part ou est-ce que c'est un besoin pour votre structure?
L'entrée payante, justement, nous, c'est la base de notre modèle économique, même en dehors de Martine Aubry, parce que le deal, tu prends l'entrée, je prends le bar, qui est un deal à 10%, 90% en gros. C'est ce qu'on utilise, c'est simplement notre source de trésorerie. Après, sur le plan personnel, moi, même si à Lille, c'est vrai que c'est particulier, il y a ce concept de l'entrée gratuite. Dans les soirées, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne idée de faire payer l'entrée parce qu'en fait, c'est un filtre. Et c'est un filtre qui n'est pas nécessairement financier parce que l'entrée, elle peut être faible. Mais c'est juste, ça demande un petit investissement de la part du public. Aussi, ça demande un effort de compréhension sur les nécessités de la structure qui organise la soirée. Pour moi, c'est un filtre assez efficace sur qui a vraiment envie de venir à la soirée et donc va possiblement y participer de manière positive ou qui est là parce qu'il a un peu bu, il sait pas quoi faire, il rentre dans le premier club qui est ouvert. Pour moi, c'est plus intéressant de fonctionner comme ça.
Il y avait aussi un enjeu, je me permets de reprendre sur Rémi, de sortir un peu du modèle « je paye pour voir un DJ que je connais ». En fait, parce que par exemple dans les artistes qu'on peut programmer sur les Martines, on a aussi cette volonté de toujours faire venir quelqu'un qui n'est jamais venu à Lille. À 50-50 en général entre une artiste féminine et des artistes masculins. Et forcément du coup c'est des choses qui peut-être nous parlent à nous parce qu'on évolue un peu dans des niches mais ne parlent pas du tout au grand public. Et avec la soirée, ce qu'on a aussi voulu faire, c'est que les gens finalement viennent pour l'expérience de la fête plus que pour un DJ qu'ils viennent voir et aussi au fur et à mesure qu'ils comprennent que on leur propose quelque chose et qu'ils vont venir découvrir en fait. Parce que entre Pacify par exemple qui jouait plutôt un son techno électro-hollandais et Dane qui va être un DJ plutôt disco-funk house, on n'est pas du tout sur les mêmes propositions et c'est vrai que d'une soirée à l'autre, on ne va pas forcément entendre la même chose dans les soirées, mais c'était important effectivement de faire comprendre aux gens qu'à un moment donné, nous en tant qu'association, on ne se rémunère pas. Mais voilà, on loue quand même beaucoup de matériel, on paye des artistes professionnellement, on fait des contrats de session, on paye des avions, des hôtels. On a quand même beaucoup de frais qu'on engage. Et c'est vrai que quand on fait payer ça à 8 euros et qu'on a des gens qui sont réfractaires en nous disant « Ouais, c'est cher, c'est gratuit ailleurs », on dit « Bah mec, excuse, mais bon, bah, tu vas payer 40 euros de bière ce soir et tu peux pas supporter des initiatives associatives ou autres, hein, d'ailleurs, qui proposent autre chose en fait que la gratuité et le top 50 Fun Radio qu'on peut entendre dans les clubs généralistes à Lille, en fait. Donc, c'est vrai qu'on a ce modèle spécifique à Lille de gratuité dans les clubs de manière générale, mais c'est aussi un peu notre rôle de réussir, quand le modèle le permet, parce que la relève, effectivement, c'est petit, d'éduquer les gens à dire, voilà, à un moment donné, les associations se démènent, il faut payer aussi pour qu'on puisse s'en sortir, en fait, puisque sinon, on ne vit plus. Nous, on fait une soirée, si on est à perte, on ne peut plus faire une autre derrière, quoi. À un moment donné, c'est nos sous-personnels qu'on va perdre, en gros.
Très bien, merci. Peut-être le jardin électronique, vous êtes sur un modèle, vous, gratuit. J'imagine que l'argent ne tombe pas de nulle part. Il doit y avoir des subventions, des sponsors derrière qui permettent de tenir l'événement, puisqu'il est quand même d'ampleur assez importante.
Alors concrètement, en fait, le jardin électronique, on l'a voulu le créer gratuit. L'idée, c'était quand même d'apporter de la musique dans des endroits où on ne l'attendait pas et que ce soit accessible. La majeure partie, enfin, le modèle économique, il repose à 90% sur le bar. Concrètement, c'est-à-dire qu'il fait beau, on gagne un petit peu d'argent, c'est-à-dire qu'il fait pas beau, ou il y a deux ans on a annulé une journée, là tu perds des montants à 5 chiffres et tu essaies de trouver des solutions, voilà. C'est un modèle qui est ce que je trouve sympa, parce qu'il permet d'apporter de la musique, mais c'est un modèle qui reste quand même relativement précaire et qui, d'une manière générale, enfin, moi, je suis pas un ayatollah de la gratuité. Pourquoi ? Parce que je trouve que parfois, ça retire de la valeur à nos métiers. C'est-à-dire que dans l'organisation d'événements, il y a des gens qui travaillent, il y a des techniciens, il y a des artistes, des gens qui produisent, des gens qui créent leur musique, les DJ qui l'achètent. Et en fait, rendre tout ça gratuit, quelque part, fait perdre de la valeur à notre boulot à chacun. Et c'est là où de la gratuité, oui, mais je suis pas d'accord pour qu'il y ait que du gratuit. Moi, je pense que c'est important qu'il y ait un équilibre entre plusieurs modèles économiques et qu'on puisse aussi, tout simplement, grâce à de la billetterie sur certains événements, faire des propositions qui soient différentes de part de la programmation, de part de la scénographie, de part peut-être des lieux encore plus fous. Donc voilà, moi je suis la gratuité, on en fait aujourd'hui. C'est pas forcément quelque chose qui est entériné et qui sera le cas demain, parce qu'aujourd'hui, nous on a quand même une volonté de pouvoir grandir l'événement, de le rendre plus qualitatif, de pouvoir faire une proposition qui soit audible au-delà des Hauts-de-France pour le public. Voilà, tout simplement.
Très bien, peut-être juste faire réagir Sabine pour Arpoint. Vous êtes sur des formules plus hybrides, puisque vous avez quand même une grosse partie, tu parlais du Name in the City, mais aussi des événements jour ou début de soirée qui sont plutôt gratuits, et une partie quand même festival, bon, qui est un gros festival avec plusieurs milliers de personnes chaque soir, avec une formule payante. Est-ce que vous êtes dit à un moment donné, on veut aller vers quelque chose de gratuit, mais c'est pas possible concrètement, ou est-ce que ça a toujours été le postulat de dire, bon, bah, on fera une entrée payante sur nos événements?
La question s'est pas posée. Enfin, pour moi, aller à un festival, c'est pas gratuit. Donc, je veux dire, je rejoins tout ce que dit Martine ou Jardin en disant j'ai un peu tout vécu, tous les formats. Donc, entre les petites soirées qu'on faisait sur carte de membre avec un ticket d'entrée très en francs à l'époque, les enfants, mais c'était le cas, jusqu'au Name Festival, effectivement, les grosses soirées doivent être payantes. Ceci dit, on a dans nos valeurs, si on peut appeler ça une valeur, la volonté de rester accessible. Donc, c'est pour ça qu'il y a des événements gratuits, que tout le pôle pédagogique est gratuit, ou alors... pour certaines masterclass, tu sais bien, Antonin pas cher et vraiment très accessible. Mais effectivement, je ne suis pas pour, si c'est possible, avec la concurrence qu'il y a avec les clubs de Lille et la politique de gratuité, je ne suis pas pour, parce qu'il y a une sorte d'éducation à faire au public. On a vu arriver, nous, une génération de jeunes pour qui la musique s'écoute... via les tablettes, via les ordis qui sont dématérialisés, et du coup c'est pareil pour les soirées, c'est-à-dire que l'eau elle coule, la musique elle coule comme l'eau du robinet, et il y a quand même des notions d'éducation à faire en disant vous venez là mais c'est un travail, booker des artistes c'est un travail, faut pas croire que telle star elle déboule de la musique, elle déboule comme ça parce que tu as du pognon, c'est pas vrai, elle a tellement de propositions qu'elle vient parce que tu as un réseau, parce que tu es là depuis longtemps, que effectivement comme disait si bien Jean-Baptiste, il y a quand même des gens qui derrière travaillent et que il faut pouvoir les rémunérer. Mais comme c'est assez lié au format de la musique électronique, parce que le format électro, c'est la teuf. Et la teuf, du coup, ça déclasse un peu certaines notions sur les prix d'entrée. Vaut mieux avoir des thunes pour aller boire que des thunes pour payer l'entrée. Or, il y a un moment donné où non, c'est pas possible que tout soit gratuit, parce que parce qu'il y a des équipes derrière et que c'est un travail d'abord, avant que ce soit la fête, quoi. Bien évidemment.
Il y a Mathilde qui voulait intervenir. Je te laisse la parole.
Et c'était pour revenir au modèle justement électronique, hein, parce que nous, on est un petit peu hors du lot pour le coup, puisqu'on appartient donc à une radio. En tout cas, on est une structure associative de type média, donc radio, qui fonctionne donc sur des subventions avec peu de moyens. Et du coup, notre travail, nous, c'est aussi de mettre en avant justement... des artistes à travers notre émission de radio pour lesquels en fait on n'a pas de moyens de rémunération en fait. Hein, on est vraiment un relais en fait entre une scène émergente, entre des artistes plus ou moins connus, locaux. Et c'est vrai qu'on leur propose en réalité en retour pas de fonds. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est que on essaye de faire aussi de la musique électronique dans les bars et justement pas forcément être sur ce mode de club, mais proposer des soirées dans les bars pour donner de la visibilité à nos artistes, parce qu'en réalité, on n'a pas de structure événementielle au sein de notre radio. Et un autre moyen finalement de pouvoir rémunérer nos artistes, c'est de négocier justement avec le bar. Le bar devient en fait le rémunérateur pour nous de nos artistes, de nos DJ. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Donc voilà, je voulais. Donc on fait des actions et des opérations qui sont gratuites pour le public, et c'est finalement le patron du bar qui supporte la charge. Et on fait ça dans une démarche de pouvoir permettre à tous de venir d'écouter, de découvrir, en fait, sans forcément être dans une logique de consommation de la musique, de client-consommateur de la musique, en fait. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'a pas de valeur, mais je pense que les structures type bar sont aussi potentiellement capable de rémunérer les événements, en réalité.
Ok.
Je pense pas que ce soit forcément au public, en tout cas, enfin, j'ai pas envie de lancer de débat maintenant, mais pas forcément au public et à tout public de supporter des charges de tickets d'entrée de festivals qui peuvent être parfois énormes quand on voit le terrain social de Lille, de notre agglomération.
Okay.
Et je pense que c'est aussi une démarche engagée de notre part en tant qu'organisateur de soirées que de fonctionner comme ça.
Après, okay, en termes de... On n'a pas évoqué l'entrée à prix libre, mais on l'a déjà pratiqué aussi, notamment pour
aussi.
Nos jams. Bon, voilà, ça peut être en entre-deux.
Ok, peut-être laisser la parole à Antoine, Haute Fidélité.
Ça fait deux fois qu'on entend le mot éducation des publics. Du coup, je rebondis là-dessus sur les questions liées au public de vos événements. Est-ce que le public qui participe aux événements festifs, musique électronique, est-ce que c'est un public spécifique? Est-ce que ça nécessite des actions de prévention? Comment ça se concrétise pour vous? Est-ce que ça veut dire de la sensibilisation? Est-ce que ça veut dire... ça passe aussi par peut-être filtrer les gens qui viennent à vos soirées. Enfin, qu'est-ce que vous entendez par ça, par cette notion d'éduquer ou de sensibilisation des publics? Et comment vous, à travers vos événements, vous positionnez là-dessus? Je peux laisser la parole à Martine Aubry, qui a ouvert le sujet tout à l'heure là-dessus.
Alors, c'est une vaste question. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs points. Bon, sur l'aspect musical, l'idée, c'est plus que les gens soient curieux et viennent découvrir de la musique. Après, effectivement, sur l'idée de la fête, c'est vrai qu'il y a un travail à faire quand même avec le public, qui est que oui, c'est la fête, certes, mais on ne fait pas n'importe quoi. C'est pas parce que c'est la fête que les mecs peuvent mettre des mains aux fesses sur la piste, ou qu'il faut consommer tout et n'importe quoi, n'importe comment. C'est vrai que nous, là-dessus, on a aussi eu un peu dans la communication une sensibilité vis-à-vis de... pas vraiment de la notion de safe space, mais de la notion du fait qu'on est ensemble en soirée et qu'on est vigilant les uns les autres de ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que si on voit une personne se faire violenter ou agresser, on signale à l'organisation pour qu'on prenne des mesures, ou que si quelqu'un se sent agressé par quelqu'un d'autre, pareil, qui reste pas dans son coin en se disant « oui, ça va, il est bourré » ou « il est un peu défoncé, donc je vais passer outre ça ». On veut quand même que les gens se sentent en sécurité dans nos soirées et qu'ils puissent communiquer avec nous si ce n'est pas le cas. Après, comme tu dis, effectivement, sur la politique d'entrée, il y a quelque chose d'assez important. C'est une petite salle, par exemple, le Smile. Et effectivement, on ne peut pas laisser rentrer tout le monde, entre guillemets. C'est-à-dire que, du fait de la position, il y a le Smile tout court qui est juste à côté. Et des fois, les gens, tout simplement, se trompent. Et quand on voit débarquer, par exemple, des groupes de mecs qui sortent d'une soirée en bar en mode étudiant tonus, complètement arraché, et qui veulent rentrer dans la soirée, qu'on leur demande « excusez-moi les gars, vous connaissez Martine Aubry, est-ce que vous êtes déjà venus? Est-ce que vous savez un peu la vague de la soirée ?» qui nous disent non, et qu'on comprend qu'ils sont là juste pour s'arracher un peu la gueule au bar, on ne les fait pas rentrer, parce qu'on préfère faire rentrer des gens qui viennent pour la soirée, qui savent pourquoi ils sont là, qui savent qu'ils peuvent passer du bon temps ici sans être forcément jugés sur leurs mœurs, sur leur apparence, ce genre de choses. Et du coup, effectivement, dans la politique d'entrée, y a un côté excluant finalement, parce que oui, on peut pas faire rentrer tout le monde, mais on préfère quand même appliquer une petite sélection pour faire en sorte que là-haut, ça se passe bien. Et quand il y a des éléments qui peuvent être perturbateurs, on puisse les exclure finalement. Donc effectivement, il y a un petit truc. Bah, Rémi, peut-être tu veux compléter.
Non, ouais, je voulais juste ajouter une petite chose sur la notion d'éducation. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec cette notion parce que je trouve ça un peu prétentieux de dire qu'en tant qu'organisateur club ou quoi, tu vas éduquer ton public. Par contre, pour moi, la démarche qu'on a pu faire d'afficher le fait que tu peux être aidé si tu as un souci pour la soirée, même avant d'afficher sur les réseaux sociaux le fait qu'on ne tolère pas, c'est plutôt communiquer pour dire qu'on est sensible à ces questions-là et qu'on ne laissera pas faire. Mais après, je veux dire, on n'est pas... Enfin, c'est des soirées, c'est cool, mais c'est qu'une soirée, on va pas changer la vie des gens avec ça non plus. Donc l'idée, c'est juste que les gens soient au courant que ça existe pour nous et ça fait partie de nos valeurs. Après, éduquer les gens, ça c'est pour moi, c'est pas la démarche. L'idée, c'est qu'ils passent un bon moment.
Il vaut mieux parler de sensibilisation plutôt que d'éducation.
Ouais, sensibilisation est un terme quand même un peu plus approprié, effectivement. Ouais.
Ok. La parole, Sabine.m.
Juste dire que peu importe le mot éducation, moi je trouve pas que ce soit très prétentieux parce que il y a un moment donné où il y a des règles à poser, clairement. De toute façon, il y a des règles de sécurité, il y a des règles de comportement, et c'est aussi ton événement, il est aussi, il est ce que tu as envie de lui faire dire, et donc effectivement. Du savoir-vivre sur le dance floor, pas de bousculade, effectivement, pas foutre des mains au cul aux gonzesses, pas agresser, se tenir, quoi. Enfin, en disant qu'un bon clubbeur, c'est quand même un clubbeur debout et pas venir s'arracher la tronche dès l'ouverture. J'ai tout vécu, moi, au Naïm, hein. J'ai quand même faire venir les pompiers avant que le mec n'arrive dans le festival, enfin, ou des trucs comme ça. Et donc, il y a eu une période qui a été un petit peu complexe pour nous en termes de... Il y a à peu près une toute petite dizaine d'années, un petit peu complexe de voir arriver un public assez complexe à gérer. Donc, c'est pour ça que moi, le mot éducation, je le maintiens, parce que sans prétention aucune, mais à un moment donné, on a voulu nous réappuyer sur certains types de comportements qui étaient acceptables et bienvenus. Dans le festival et dans n'importe quel de toute façon dans n'importe quel événement qu'on fait, parce que on a déjà sorti des mecs parce qu'ils hurlaient sur un barman, enfin bon, je veux dire, il y a un moment donné où il faut quand même être un petit peu strict là-dessus pour éviter les débordements, mais sinon en général ça se passe quand même plutôt très bien.
je vais vous laisser intervenir sur la question plutôt du rapport avec les institutions, du rapport aussi avec les politiques et par rapport à cette question de la fête et de la musique électronique. Quel est votre sentiment? Je sais qu'il y en a certains qui bossent étroitement avec les politiques publiques, avec les institutions, que ce soit dans le cadre de leurs événements ou autres, d'autres moins. Quel est, vous, votre positionnement? Je vais peut-être donner la parole à Jean-Baptiste du Jardin électronique pour nous parler un petit peu de son rapport aux institutions et aux politiques.
Nous, très concrètement, quand on crée un événement, quand on crée un rassemblement, on veut que ce soit quelque chose qui soit fait pour les habitants d'une collectivité, que ce soit fait, que ce soit un point de rassemblement. Et quand on le monte, en fait, on souhaite que ça se fasse avec les pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que quand on commence à avoir une volonté commune, c'est là qu'on peut créer des choses, discuter très franchement des sujets, éviter de se retrouver dans quelque chose où on joue un petit peu au chat et à la souris, qui peut parfois être un petit peu bancal et un petit peu risqué, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, on fait de la fête. Le but, c'est quand même de proposer quelque chose de sympa, quelque chose d'amusant, nous aussi, d'y prendre du plaisir. Puis on a su aussi, ça fait quoi? Ça fait 7 ans qu'on a créé le Jardin électronique, ça fait 15 ans qu'on fait de la musique électronique en tout. Et on a vu en fait la différence entre cette période où on ne connaissait pas les institutions, maintenant on commence à les connaître un petit peu, les choses sont un petit peu plus simples en fait, tout simplement. Alors moi je me sens, je me suis vraiment éclaté à la période où on faisait nos soirées dans les cafés-concerts, les périodes où on faisait nos braderies, nos fêtes de la musique sur la place du marché de Loisem sans rien demander à personne. Franchement, c'est des souvenirs mortels. Mais aujourd'hui, pour ma part, la volonté est différente, c'est plutôt de créer quelque chose avec le territoire, pour les gens du territoire. Voilà.
Et je me permets de rebondir, comment tu ressens, toi, les politiques et les institutions par rapport aux musiques électroniques? Est-ce que tu sens quelque chose de réticent au départ? Est-ce qu'il faut les convaincre? Est-ce qu'il faut y aller? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est plutôt bien perçu?
Je pense qu'il y a un travail à faire pour convaincre. Mais aujourd'hui, on se rend compte que dans les services des institutions, que ce soit au niveau opérationnel, au niveau élu, les générations changent. La musique électronique elle-même change et change aussi d'image auprès de ces personnes. Je pense qu'il y a moins de difficultés aujourd'hui d'y aller qu'il y a 10 ans ou 20 ans, par exemple, où c'était quelque chose qui était réservé peut-être à des initiés, qui apparaissait peut-être comme quelque chose de plus marginal. Aujourd'hui, pour moi, la musique électronique, c'est une musique actuelle, au même titre que les autres, qui souffre d'un problème de représentativité aujourd'hui, très clairement. Nous, on se bat tous les jours pour que on puisse avoir plus d'événements. Parce que moi, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, j'aimerais bien pouvoir faire la teuf un peu plus souvent dans des événements divers et variés. Donc nous, en fait, le boulot qu'on se donne, c'est d'essayer de développer un maximum de projets dans les années à venir dans les Hauts-de-France.
Sabine, je te fais peut-être réagir là-dessus par rapport à ce lien avec les politiques et les institutions.
Je pense qu'il y a un certain niveau de développement et un certain niveau de taille d'événement, de format. T'es obligé de collaborer avec au minimum une ville pour avoir les autorisations, pour pouvoir collaborer avec les équipes de police municipale, nationale, propreté de la ville. Enfin, on peut pas faire un festival ou un gros événement, quel qu'il soit.
Est-ce que vous avez senti, vous, avec Arpoem, une difficulté parfois à organiser les événements parce que il a fallu convaincre ou il a fallu batailler pour des choses ou...
Alors, je te dirais une réponse à deux têtes, jamais et toujours, parce que dans l'histoire du NAME, il est arrivé un peu comme une bulle. C'est venu d'un vice-président à la culture qui connaissait nos événements électro, qui avait vu ce qu'on avait fait pendant la capitale européenne de la culture et qui avait une réflexion en se disant « mais il se passe rien dans le Nord » et il voyait bien qu'il y avait une migration tous les week-ends en Belgique. Et il trouvait que, contrairement à d'autres départements, parce que existait déjà à l'époque Mars Attack, les Nuits Sonores et tout ça, que ce serait bien qui est un événement électro donc à la dimension d'un département. Donc je dois complètement avouer que c'est pas nous qui avons décidé de faire le festival. On s'est quand même néanmoins interrogé et on a dit bon on y va quoi. Du coup, on est rentré effectivement là dans la construction complètement institutionnelle d'un événement. Par rapport à chaque fois où s'est installé le NAME, soit ça a été complexe, soit ça l'a pas été. Ça dépend des personnes, mais vous savez très bien que, alors là, le Covid en remet une couche, que la musique électronique est très stigmatisée. Et que là, on le voit encore bien, enfin, on le voit encore bien, puisque le Sénat a refusé le vote de soutien aux musiques électroniques et aux clubs, donc ne dépend pas du ministère de la Culture. On voit bien qu'il y a quand même un petit problème de représentativité, ça c'est évident. Et il y a encore un petit peu de boulot parce que effectivement on ne se sort pas du schéma musique électro égale DJ dans un lieu où il y a du monde et c'est la fête. Tant que la fête sera pas reconnue comme un usage social fondamental, où c'est pas que pour se déchirer, mais c'est juste pour être dans un même mouvement avec du monde et d'écouter et de rentrer dans une sorte de, oserais-je dire, de communion en musique et faire la fête et où tout est aboli, où on s'échappe un petit peu de tout. Et on le voit bien de toute façon ce qui s'est passé après le premier déconfinement. On nous a pas laissé l'opportunité de réfléchir à des formats de plein air encadrés et ça a fait la teuf partout et voilà. Après moi j'ai trouvé ça génial, mais ça a remis la fête au-delà de la musique électronique et des esthétiques, ça a remis la fête dans une espèce de clandestinité en fait, donc on a un petit peu reculé en arrière en vrai, hein.
En parlant non, tu voulais rajouter quelque chose?
Je disais que du coup nous on travaille sur un millefeuille. À chaque fois que le name, et de toute façon, nous, maintenant, on peut plus, on peut pas, dès qu'on dit name, c'est tout de suite ville, services municipaux, département, région, nanana. Mais en même temps, c'est ce qui fait que ça fait partie de la construction identitaire du festival.
Ok, je vais peut-être laisser la parole à WhatsApp de Flore qui est plutôt sur un format de soirée moins en lien, on va dire, voire pas du tout avec les institutions. Pourquoi ce choix?
Nous, on est aussi une bulle dans une bulle, c'est-à-dire qu'on est un collectif au sein d'un autre collectif, RCV 99FM, qui s'identifie donc comme une radio indépendante, en fait. Donc, on est aussi dans cette ligne en fait de rester nous-mêmes et de ne s'associer en fait de pas trop s'associer à la ville.
Ouais, en réalité la direction, enfin, c'est-à-dire que les choix politiques au sein de RCV sont effectivement de se dissocier des institutions type ville ou type mécénat ou type publicitaire, etc. C'est vraiment de valoriser une indépendance, mais qui reste une indépendance, je dirais, sans jugement, relativement fictive, parce que finalement, on reste financé par des fonds publics qui sont des fonds nationaux pour la culture. Donc, on a quand même la chance, en tant que média, d'être dans cette catégorie des acteurs culturels pour notre part. Maintenant, effectivement, notre démarche de soirée qui appartient à notre collectif de What's Up on the Floor, effectivement, travaille dans une logique un peu plus libérale entre guillemets et autonome. C'est vrai qu'on s'investit à titre personnel et on demande aussi du temps aux artistes d'un point de vue passion, d'un point de vue investissement passionnel en réalité plus que d'un investissement financier. C'est-à-dire que l'idée c'est de partager, de transmettre, d'éduquer entre guillemets, ou en tout cas de permettre de donner de la visibilité à la scène qu'on découvre chaque semaine et qui nous intéresse. Mais c'est vrai que à ce jour, on développe pas de partenariat avec les institutions parce que on recherche cette autonomie et cette liberté d'action. Et c'est à double tranchant parce qu'effectivement, on n'a pas de cadre institutionnel, ce qui peut aussi parfois laisser place à des débordements ou des risques différents. Par exemple, on a organisé pendant un peu plus d'une année des jam sessions de musique électronique au sein d'un bar qui était situé rue Henri Kolb, d'un bar-club, enfin bar-concert. Et ça a été effectivement difficile de trouver une rémunération juste entre les participants, les musiciens plus affranchis, les participants qui venaient jouer avec leur machine, les recettes du bar, et puis entre tout ça, de trouver un équilibre pour que tout le monde soit satisfait. Donc on est sur un terrain glissant, mais on est en train de mener modèle.
Très bien. Je repasse très rapidement la parole à Sabine et après à Corentin. Sabine.
Oui, juste pour dire que institution ne veut pas dire perdre son indépendance.
Oui, la preuve en est, c'est qu'on est financé par des institutions. En réalité, RCV revendique, la phrase de RCV, c'est cultiver votre indépendance. Pour autant, on fait des dossiers de subvention chaque année pour continuer à exister.
Et c'est souvent d'ailleurs par l'intervention de l'argent public que des structures gardent leur indépendance par rapport à certains modèles économiques de l'entertainment globalisé. C'est la phrase que j'aime bien en ce moment, pardonnez-moi.
Très bien. Je vais juste donner la parole à Corentin, parce que en tant que directeur artistique de La Relève, vous, c'est quoi votre rapport avec les institutions? Parce que voilà, vous êtes sous une forme club, entreprise, j'imagine SARL. C'est quoi le dialogue qu'il y a avec notamment la mairie de Lille, les institutions départementales, régionales éventuellement?
Le dialogue, il n'en a pas tant que ça. Disons qu'en fait, on a affaire à eux pour tout ce qui est demande de diffusion extérieure. Imaginons pour la fête de la musique, la braderie, on doit déclarer des plans. Le reste du temps, forcément, on a affaire à des commissions de sécurité, des choses comme ça. Mais disons qu'on n'a pas forcément affaire avec eux directement. Là, suite à cette crise, on a eu pas mal de contacts avec des députés, avec des associations, les syndicats surtout de la nuit. Qu'on avait un peu pour essayer de voir comment les choses allaient bouger, tout ça, beaucoup de contacts, surtout depuis cette crise. Mais auparavant, en fait, tant qu'il n'y a pas de problème, on n'a pas trop de rapport avec la ville en soi.
Et on va terminer quand même avec ce tour d'horizon avec l'organe fête de la mairie Martine Aubry. Déjà, pourquoi ce nom et quel est votre rapport avec les institutions et la ville?
Bon, au niveau du nom, c'est venu d'un brainstorming qu'on a eu chez les gars, à base de rhum et de cannabis, qui a ouvert la créativité. Non, je rigole. Bon, ça c'était pour l'anecdote, mais disons que c'était un petit clin d'œil. C'est sorti un peu comme ça naturellement, et puis on s'est dit ah ouais, c'est marrant parce qu'effectivement, forcément, ça rattachait la soirée à son territoire puisque. Martine, c'est la dame du Nord. Après, ça n'avait pas volonté forcément. C'était pas en direction de Martine. On n'avait rien contre elle ou quoi que ce soit. Le Martine au bruit rappelait un petit peu aussi les BD pour enfants, Martine à la plage et Martine X et Y. Et on aimait bien en fait aussi l'idée de bruit parce que souvent, pour les plus vieilles générations, je peux parler de ma mère par exemple. Voilà, la musique électronique, c'est un peu boum boum du bruit, c'est fort et on se bouche les oreilles quoi. Donc il y avait aussi ce truc de Martine au bruit et forcément la phonétique qui rappelait la mère de Lille qui ancrait un peu ce nom dans la ville quoi. C'est vrai que c'était quelque chose forcément qui faisait rire aussi et l'humour est un levier on va dire de communication auprès des gens qui fonctionnent toujours assez bien. Entre guillemets. Après, nous, au niveau du rapport politique, on n'en a pas forcément. On a pu en avoir avec nos associations respectives, quand par exemple, on a pu travailler avec la Maison Folie Moulin, ou par le biais d'événements à Saint-Saul, ou dans le cadre de l'île 3000, au moment où Détroit était à l'honneur pour des émissions radio, des choses comme ça. Mais à l'heure actuelle, ça s'arrête là, quoi, plus ou moins, au niveau des contacts.
Sur le plan personnel, avant Martine Aubry et avant même Business, j'avais une asso qui s'appelait Mat Trang. J'avais eu des contacts, j'avais organisé des événements en dehors de Lille, dans un bled qui s'appelle Brion, qui est entre Orchies et Saint-Amand, entre Lille et Saint-Amand. Et on avait eu des rapports avec les pouvoirs publics, qui étaient la mairie du village et la sous-préfecture, qui étaient assez désastreux, donc ça m'a un petit peu, je peux dire que ça m'a calmé, mais ça m'a laissé un goût amer. Donc, maintenant j'ai pas, même si ce serait intéressant au final, mais j'ai pas nécessairement l'envie d'aller directement vers les pouvoirs publics, même si au final c'est eux qui ont la clé de qui ont la clé pour résoudre les problèmes, quoi. Mais...
Après, juste pour rebondir un petit peu sur ce qu'avait pu dire Sabine, c'est vrai qu'au niveau national et notamment avec la crise du Covid en cours, moi c'est pareil, j'ai vraiment la sensation qu'on a fait un grand pas en arrière en termes d'image de la fête.
Je vais te redonner la parole tout de suite, je vais te couper, je te redonne la parole parce que tu nous fais une transition toute faite sur le Covid. On va en parler tout de suite. On a fait un peu le tour de vous, comment vous organisez la scène lilloise avant cette crise. On n'en a pas trop parlé jusqu'à maintenant. C'est vrai, comme tu le disais, comme Sabine le disait, comme ça transparaît un petit peu dans les discours de tout le monde, là, il y a quelque chose de fort qui se passe, puisqu'il y a eu cette crise qui est dure encore et qui risque de durer encore. Je te laisserai la parole après, mais je vais juste faire un tout petit tour de table, que chacun nous dise un peu comment ils se sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui en quelques mots. On va commencer par Jardin électronique. Comment au Jardin électronique vous vous positionnez et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles sont, sans forcément passer des perspectives, mais plutôt aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans cette crise et comment vous avez vécu ce passage délicat?
Délicat, il l'est toujours. Concrètement, on avait vécu ça comme un joli coup d'arrêt après un grand moment d'euphorie avec le jardin d'hiver. En fait, on était gonflés à bloc, ça y est, on commence à faire un peu de nocturne, on crée de nouveaux événements, on était très contents. Et au début, en fait, on s'est posé beaucoup de questions, on a essayé de réfléchir à ce que est-ce que ça va durer, est-ce que on pourra continuer à faire la fête, sous quelle forme. En fait, il y a eu un grand moment de questionnement sur les projets qu'on pouvait mener, sur même notre raison d'être, parce qu'au final, aujourd'hui, le contexte actuel va complètement à l'encontre des valeurs et de ce qu'on essaie de défendre, nous, avec la musique électronique, et je pense que c'est le cas pour beaucoup. En fait, on a appris des choses aussi sur nous, c'est-à-dire on a appris à renoncer. Tout simplement. Ça paraît bête, hein, mais c'est quelque chose, on a dû apprendre à le faire, apprendre à le digérer, apprendre à rebondir, à être résilient. On a par exemple passé du temps à repenser notre démarche de développement durable, de repenser aussi notre démarche de médiation, penser à de nouveaux types d'événements un peu plus Covid compatibles. On en a profité aussi pour créer une nouvelle activité, bon, qui est aussi liée à l'événementiel. Là c'est une petite digression, on a créé une activité de sanitaire écologique, donc de toilettes sèches. On a appelé Green Cabin, on a profité de ce temps en fait, on n'est pas resté à se tourner les pouces, on a voulu continuer à créer, même si ce n'était pas que autour de la musique électronique.
Merci. Je redonne la parole à Léni de Martine Aubry. Tu nous expliquais que tu trouvais qu'il y avait un vrai retour en arrière lié à cette crise du coronavirus.
Effectivement, je trouve, là je parle plutôt à un niveau national, mais c'est quand même quelque chose qui est présent dans la société française depuis un petit bout de temps. Puisque l'arrêté préfectoral de 1990 qui a vraiment diabolisé un peu l'image de la rave party en France, il est quand même encore, on le sent très présent encore dans les générations politiques actuelles finalement et dans les gens qui ne connaissent pas cette culture. Et je trouve qu'avec le Covid, on a vraiment fait un pas en arrière au sens où quand la fête a repris cet été, que ce soit des fêtes privées ou des raves, il y a quand même eu un discours médiatique qui a été très méprisant et très culpabilisateur vis-à-vis des jeunes ou de la fête de manière générale. Alors qu'effectivement, après des mois et de rester chez soi, j'imagine que, on avait peut-être tous besoin aussi de ce moment-là, puisque la fête quand même fait du bien dans cette période. C'est-à-dire, on vit quand même une période qui est assez anxiogène, où justement, on limite les contacts, on ne peut plus voir les gens vraiment parce qu'on porte des masques, il n'y a plus vraiment de vie sociale. Là, ce sera plutôt pour l'après, mais je pense qu'il va falloir envisager la sortie de crise avec la fête. Et on ne peut pas rester sur ce discours culpabilisateur actuel qui voit la fête seulement sous le prisme en fait, d'un désordre, d'un potentiel risque pour la santé des gens parce que les gens s'intoxiquent, sous le prisme que c'est une nuisance sonore pour les gens qui veulent dormir. À un moment donné, il faut considérer aussi la fête sous son aspect social, comme on l'a tous évoqué au début de cette conférence, en disant que c'est un espace où on rencontre des gens, un espace où on discute, un espace de liberté, de subversivité aussi, et qui va être extrêmement important en fait pour cette sortie de crise. En fait, on ne peut pas rester dans un discours de culpabilisation et nous priver indéfiniment de la fête, puisque c'est un droit, on a le droit de faire la fête et on en a besoin, surtout dans cette période en fait, où effectivement, on est tous un peu anxieux, dans des états dépressifs. On a besoin de cette sociabilité-là et le pouvoir politique ne va pas pouvoir nous l'interdire indéfiniment. Et ce que laisse transparaître le discours actuel, c'est quand même une certaine forme de mépris comme on a pu le voir sur le refus effectivement de l'aide pour les milieux de la nuit, quand on voit le refus de Roselyne Bachelot de s'engager sous prétexte que la nuit ça dépend du ministère de l'Intérieur, excusez-moi, il y a des raisons de s'inquiéter aujourd'hui de dépendre directement du ministère de l'Intérieur de Gérald Darmanin. Franchement, il y a des raisons de s'inquiéter. Et moi, j'ai vraiment l'intuition, et j'espère que l'histoire va me prouver tort, que le retour de la fête, ça ne va pas être un dû, mais qu'il va falloir se battre pour ça, concrètement. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu quand même.
Alors, beaucoup de réactions à ce que tu viens de dire, Lénie. Je redonne très rapidement la parole à Jean-Baptiste, du Jardin électronique.
Moi, je te rejoins complètement. Aujourd'hui, en fait, on est dans un... Je ne vais pas dire une société, mais on est dans un moment que je trouve un petit peu moribond pour le moral, pour tout le monde. En fait, c'est un moment que je trouve un peu triste, un peu dépressif. Et la fête, en fait, c'est vraiment tout ce qui va pouvoir... Ça va être le médicament, en fait. Moi, je le vois vraiment comme un médicament, la fête. C'est ce moment où on va se retrouver, on va repartager à nouveau des émotions avec des publics, avec des organisateurs, avec des artistes, avec tous ces gens-là. Et ça nous permettra aussi de nous ressouder, parce qu'au final, ça fait des mois qu'on reste, entre guillemets, chez nous, qu'on ne se voit pas, qu'il n'y a plus de contact humain, on ne se fait plus la bise. Moi, à titre personnel aussi, j'en ai besoin, quoi. Ouais. Et je ne parle pas en tant qu'organisateur.
Je vais laisser la parole à Mathilde qui voulait réagir également. What's up on the floor?
Non, c'était une erreur.
Sabine, je me permets de t'interroger là-dessus, puisque avec vous, avec R.M et le NAME Festival, malheureusement, n'a pas pu avoir lieu puisqu'il avait lieu début octobre. Comment ça s'est passé pour vous et voilà, comment vous avez réagi par rapport à tout ça et comment s'est passée cette période pour vous et se passe cette période pour vous?
Pas super bien. Alors nous, en sortant du premier déconfinement, on s'est dit bon le name on sait pas ce... enfin franchement on était assez plutôt optimiste hein. On s'est dit bon et puis de toute façon nous notre métier c'est de faire hein. C'est pas d'attendre que voilà les trains passent, donc on s'est dit bon très bien, notre stratégie ça a été de dire on sait pas ce qui va se passer au mois d'octobre d'un point de vue sanitaire, en tout cas nous on va pas partir sur une annulation sèche, on va préparer le festival, le programmer, et si on peut pas ouvrir, eh ben, on fera un report. L'histoire nous a appris qu'on a fait un beau report, donc c'est assez satisfaisant. C'est bon, on se console comme on peut. Au-delà de ça, chez R.M, eh ben, on ne travaille pas, puisque la braderie de l'art n'aura pas lieu au mois de décembre. Et donc ça, c'est le scénario le plus noir qu'on ait pu écrire. Donc aujourd'hui, mes journées sont faites de Zoom. De tenter de décrocher des fonds de soutien, des fonds de je sais pas quoi, de rentrer dans France Festival et de participer à des réflexions pour justement, selon l'esthétique musicale, selon le modèle économique d'un festival, qu'au moins le ministère reconnaisse une diversité de modèles et pas forcément les modèles institutionnels des très gros festivals ou uniquement des institutions culturelles. Voilà. Et ensuite, pour le reste, on a un état d'esprit de collectif. Donc, si possible, le collectif génère une intelligence collective et on a quand même vécu des cassages de gueule hein, depuis 30 ans. Donc, ça, c'est une crise nouvelle. Différente, mais je la prends comme un défi pour s'en sortir. Après, en ce qui concerne la fête, et je suis totalement d'accord avec vous tous, il va falloir quand même démontrer qu'on est des professionnels ou pas, j'en sais rien, mais qu'on est capable d'encadrer des événements, et j'imagine un retour progressif, et à montrer que, et de toute façon, le premier déconfinement l'a très bien montré, le rassemblement des gens festifs est totalement nécessaire. Dans un climat anxiogène, comme tu dis Jean-Baptiste, fait du bien, c'est un médicament, qu'il va falloir déstigmatiser la jeunesse et ses pratiques de détente, de rencontre, de vivre ensemble. De toute façon, c'est aussi clairement un peu valable dans toutes les couches d'âge, mais la jeunesse est plus particulièrement stigmatisée. Je pense qu'il va falloir affiner notre discours parce que la fête en soi est complètement anti-Covid et inversement. Donc, montrer qu'on est capable de d'imaginer des encadrements et progressifs pour revenir à un dance floor normal. Moi, j'ai des limites parce qu'à un moment donné, comme je fais partie de fédération avec des gros festivals, quand j'ai dit, bon, moi, je prépare le name, ils m'ont regardé avec des grands yeux en disant, mais elle est complètement siphonnée, celle-là. Au final, ils avaient raison, mais tant pis. Je pense sincèrement qu'on va devoir aller sur le progressif avant d'arriver à un état normal. Bien définir ce que c'est qu'un état normal. Moi, il n'était pas question que je fasse mon festival en stream. Et il n'est pas question qu'à un moment donné, je mette 300 personnes dans 12 000 mètres carrés. Il y a un moment donné où on va devoir se serrer les coudes en disant, puisque tant que vous entendrez pas, il n'y aura pas de festival, parce que nous, on n'a pas envie d'aller vers des schémas complètement anxiogènes et de transformer les salles de concert. On ne peut pas être debout, on ne va pas pouvoir aller boire une bière. Et en vrai, c'est l'anti-événementiel et l'anti-musique. Donc, il y a des limites à imposer, quoi. On a discuté avec des Japonais, ils ont fait un festival où chaque festivalier arrivait avec un bout de tissu qui, une fois au sol, permettait la délimitation au sol. Image pour moi terrible, parce que moi j'aime les dance floors et j'aime les salles où on se marche dessus, quoi, clairement. Et donc il faut le revendiquer comme quelque chose qui n'est pas dangereux. Mais pour vivre cette deuxième vague de manière un petit peu réaliste, beaucoup de gens autour de nous sont touchés par le Covid, gravement. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi.
Je vais passer la parole à Corentin. Vous, dans une situation particulière, puisque vous êtes un club fermé depuis le 17 mars, comment ça se passe pour vous et quelles sont les marges de manœuvre et les possibilités pour l'équipe de pouvoir subsister dans ce contexte de crise ?
Le contexte est très spécial. N'importe quelle entreprise privée d'entrée d'argent, d'un chiffre d'affaires, peu importe le domaine, pendant un an, c'est très très compliqué. Mon patron a plus ou moins bien géré ça, et il a eu des aides de l'État qui sont d'ailleurs des prêts. Donc en fait, des prêts, c'est pas non plus des aides, c'est quelque chose qu'on rembourse derrière. Donc en fait, la sortie de crise pour beaucoup de clubs, nous ça va, on va tenir, mais il y a déjà beaucoup de clubs qui ont fermé, et la sortie peut-être qu'en fait l'année prochaine, c'est encore plus compliqué, parce que tous les PGE, c'est ça reste des prêts, il va falloir les rembourser. Dans quelles conditions on va rouvrir, est-ce qu'on va pouvoir ouvrir avec le chiffre d'affaires qu'on avait auparavant. Il y a beaucoup de questions qui se posent en fait sur la date d'ouverture, sur les conditions. Après, c'est clair que dans notre configuration, par exemple, c'est très compliqué d'imposer des gestes barrières. Et puis c'est aux antipodes de l'esprit du club, en fait. C'est un peu notre seul point fort, c'est la convivialité. On aime la fête. Et la fête shot, comme je pourrais l'appeler, c'est-à-dire des émotions, des gens qui s'amusent. On n'a pas envie de transformer la cave en un frigo, puis en fait ça marcherait pas forcément, quoi. Enfin, ça marcherait même pas. Donc l'avenir est assez flou pour nous comme pour tout le monde, en fait. Mais quand il y a 10 salariés, c'est un peu compliqué de se projeter, quoi.
D'accord. Peut-être laisser réagir Sofiana de WhatsApp on the floor sur la question.
Oui, parce que donc nous, la fête et la musique, on la diffuse sur les ondes, donc on a cette chance en fait de pouvoir toujours exister immatériellement en fait malgré cette crise. Malgré tout, l'accès au studio en fait a été fermé, donc ça depuis mars. Ça veut dire que donc tous les animateurs bénévoles en fait doivent faire les émissions de chez eux. Donc ça te coupe quand même un accès au matériel, au fait de pouvoir aussi inviter des gens, parce que tu n'as pas forcément envie d'inviter les artistes chez toi, etc. Tu dois bien aussi savoir, Antonin, que organiser une émission avec plusieurs intervenants à distance, c'est assez complexe. Et c'est vrai qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi des studios qui respectent les mesures sanitaires et qui emploient des animateurs sont toujours ouvertes, des radios sont toujours ouvertes, alors que nous, nos studios aussi respectent les mesures sanitaires, on a mis en place un protocole, etc. Et nos animateurs, par contre, sont bénévoles et on a dû fermer. Donc c'est assez dur en fait d'entendre un discours très strict pour motif sanitaire, Puis après, tu interprètes en fait dans les mesures que la santé, elle passe un peu au second plan après l'économie. Puis encore une fois, notre radio, elle participe aussi à la santé mentale de ses animateurs et de ses auditeurs.
fait un petit tour d'horizon de la situation actuelle. Est-ce que vous, alors j'imagine que c'est compliqué pour chacun des acteurs à tous les niveaux, est-ce que vous avez des pistes, des envies? Est-ce que cette crise a fait émerger des idées par rapport à l'après? Est-ce qu'il y a des choses qui se distinguent? Tu parlais tout à l'heure, je vais te donner la parole, Jean-Baptiste, vous réfléchissiez, vous, à l'après-Covid. C'est quoi les projets à venir?
Ben déjà, on construit deux types de projets. En fait, on a une partie de notre programmation qui est basée quand même sur une hypothèse. Une hypothèse avec de l'espoir qu'on puisse retrouver des conditions de production d'ici quelques mois ou pas plus tard qu'un an pour se retrouver autour d'événements comme on le faisait entre guillemets avant. Alors peut-être des aménagements, certains protocoles un peu différents. Mais aujourd'hui, la programmation, on l'oriente aussi vers d'autres publics. On est en train petit à petit de migrer, mais d'ajouter certains destinataires à la programmation, que sont des plus jeunes, que sont des familles, que sont peut-être des plus anciens. L'idée, c'est d'apporter aussi une sensibilisation, une dédiabolisation, de l'éducation sur ce qu'est la musique électronique, comment elle se pratique, aussi d'où elle vient. Donc on essaie de transformer ce qu'on faisait avant, qui était quasiment que de la fête, entre guillemets, en quelque chose qui va impliquer des publics de manière un peu plus large, mais aussi pour continuer à exister, parce que très concrètement, enfin, ça c'est ma conviction profonde et je pense qu'elle est pleine d'espoir, c'est qu'on retrouvera un monde de la fête au bout d'un moment.
Léni et Rémi, pour Martine Aubry, c'est quoi vous, vos perspectives à moyen, long terme? On continue la fête, on arrête, on change les choses? Quelles sont vos envies du moins aujourd'hui?
Moi, sur le plan personnel, je suis passé de mon job, c'était DJ, organiser des soirées, maintenant je suis ouvrier du bâtiment. Donc voilà. Mais non, après, sur la suite, je pense qu'on est d'accord avec Léni, mais les conditions actuelles pour organiser un événement, enfin une soirée, ne vont pas du tout. Enfin, je vois pas d'autre manière de faire la fête que comme on le faisait avant. Et après, je suis peut-être quelqu'un de fermé, mais en tout cas, c'est mon opinion. Tant que ça reprend pas, tant que ça peut pas reprendre comme c'était avant, je pense qu'on fera rien. Après, on réfléchit à d'autres choses qui sont pas des soirées, mais
on va voir. Ouais, effectivement, c'est vrai que il y a quelque chose d'assez marrant quand même entre la situation à cause du virus et la fête, parce que c'est vraiment genre le recto et le verso, quoi. Moi, je peux pas imaginer une soirée où les gens portent des masques, où ils doivent faire attention à la distance entre les autres. C'est vraiment l'antithèse de la fête, en fait, les restrictions Covid. Donc effectivement, je pense qu'on va attendre que les choses se calment. Enfin, on va voir comment ça évolue, ou en tout cas, on va essayer de se battre pour faire évoluer les choses dans le bon sens plus rapidement. Après, faut voir aussi la situation des discothèques en tant que société à la fin de cette crise, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui vont mettre la clé sous porte. Donc déjà qu'à Lille, les lieux pour faire la fête, c'était un peu compliqué. Que va-t-il rester? On ne sait pas encore. Après, voilà, je pense qu'on n'exclut pas non plus de faire des choses, mais dans la sphère privée, en plus petit comité, sans forcément avoir une communication réseaux sociaux, mais qu'on continuera à pratiquer la fête dans nos réseaux privés. Certes, en faisant attention aussi, hein, parce qu'on n'est pas non plus des inconscients, mais il faut qu'elle continue de vivre, en fait, tout simplement, parce que parce qu'on aime ça, en fait, et pour nous, c'est nécessaire. Effectivement, moi, personnellement, et je pense, enfin, Rémi et tout le monde autour de cette table, d'être privé de ça, c'est quelque chose qui est difficile, qui est moralement difficile, et je me sens concerné dans les personnes qui aujourd'hui vivent des états dépressifs ou anxieux à cause du Covid, parce qu'on m'a privé de quelque chose qui me faisait du bien, en fait, qui était cette liberté d'aller danser le week-end, de juste évacuer, entre guillemets, de rencontrer ses amis, de boire des verres, de discuter. Le fait d'être privé de ça, c'est dur psychologiquement. Donc, à un moment donné, je vais recommencer. Si le gouvernement n'est pas d'accord, c'est pas grave, quoi, tout simplement. Mais on fera ça dans la sphère privée et pas dans la sphère publique. On va garder espoir, effectivement, parce que c'est vrai que la fête, on a vu d'autres, entre guillemets, quoi, dans son histoire. Elle a quand même, à New York, survécu au sida. Elle a réussi l'Allemagne aussi, la jeunesse allemande. Enfin, voilà, quoi. Elle a toujours su rebondir, parce que je pense qu'il y a quelque chose de... C'est un besoin humain fondamental, en fait, le fait de devoir se retrouver, le fait de pouvoir danser, d'avoir cet espace-là. Et il reviendra un jour ou l'autre. Ça va peut-être prendre du temps, mais c'est sûr que... Je garde espoir sur le fait que ça disparaîtra jamais, finalement. En tout cas, on continuera de le faire vivre. Si en Iran, ils sont capables de faire des soirées, en France, on devrait réussir aussi, quoi.
Je pense.
Ouais. Moi, en tout cas, j'ai foi dans la jeunesse aussi et dans les personnes qui sont attachées à cette culture de continuer à la faire vivre, ou en tout cas de la revendiquer, quoi.
Corentin, peut-être sur cette question-là, la suite pour toi et pour le club et pour tes projets avec le collectif Gazole ?
C'était très dur en fait avec Gazole. Par exemple, on avait cette année l'aboutissement de nos 4 ans de projet, notre 5e vinyle. On devait faire une tournée européenne avec tous les artistes du label. On avait intégré à notre label une bouqueuse d'expérience qui nous préparait quelque chose de cool avec les Japonais, les Allemands, ça, tous les mecs avec qui on bosse depuis le début sur les sorties vinyle. Tout est tombé à l'eau en fait, c'était cet été. On avait plusieurs villes sympas en Europe de l'Est, tout ça, c'était très cool et c'était un peu l'aboutissement du projet. Et je vous avoue que c'était un coup dur psychologique aussi bien pour mon taf à la relève que pour ça. J'ai senti une sorte de... Je me suis senti isolé. En fait, j'ai l'impression que tout ce qu'on avait fait avant ne valait plus rien, en fait. Et aux yeux de la société, surtout après le premier confinement, ça allait, mais après le premier déconfinement, en fait, je me sentais inutile du jour au lendemain. C'était pas une période sympa. Et même encore maintenant, en fait, j'ai l'impression que tous nos métiers, en fait, sont dévalorisés. Et aux yeux de la société, on est plus grand-chose, alors qu'avant, on travaillait avec des gens qui nous respectaient. On avait des échanges quotidiens avec eux. En fait, tous les gens avec qui qu'on côtoyait au quotidien ont été mis à l'écart, se sont oubliés. Je bosse avec beaucoup de gens, des agents d'artistes, tout ça, qui eux qui sont totalement isolés, qui étaient à leur compte, qui pourtant font ça depuis 10-15 ans et qui sont au fond du gouffre psychologiquement, financièrement, de tous les côtés. Donc le coup psychologique de cette crise est assez fort, je pense, pour beaucoup de gens dans ce milieu. Et je sais pas comment s'en sortir et par quel biais en fait ça pourrait devenir comme avant. Je pense que ça va être hyper compliqué de retrouver une dynamique économique et psychologique comme ça l'était jusqu'à un an, quoi.
La parole à What's Up on the Floor. Vous, la presse, c'est quoi les envies, les projets qui pourraient voir le jour à moyen à long terme?
Alors, nous, dans l'idéal, ce serait, dès que possible, reprendre les émissions en studio et donc pouvoir de nouveau accueillir des artistes. On met l'accent sur notamment les prestations live lors des émissions de radio. Et c'est vraiment quelque chose là dont on est privé. Donc, en travaillant à distance, on reçoit des prestations déjà enregistrées par les artistes. Mais finalement, ça n'a pas du tout le même cachet, la même valeur. Donc c'est vraiment de se retrouver physiquement ensemble et de recréer cette émulsion. Maintenant, c'est vrai que les dynamiques qui existaient il y a 6 mois, 1 an, en fait, sont plus du tout les mêmes. On se rend bien compte que les dynamiques, qu'elles soient artistiques, de motivation, d'envie, etc., ont complètement changé, en fait. Ce côté, justement, résilience qu'on a dû adopter fait qu'aujourd'hui, on a des fois une impression de vide, une impression de perdition, de plus avoir d'espoir, de motivation. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va pouvoir reconstruire quelque chose? Donc nous, c'est clairement la reprise des émissions physiques et puis ensuite, effectivement, la reconstitution d'événements, mais qui seront, à mon avis, à prévoir sur le courant de l'année 2021, voire moitié 2021. Enfin, on n'est pas, je pense que on ne pourrait qu'attendre et pour l'instant faire du travail préparatoire de recherche. On a une programmation qui est prévue, on a des artistes qu'on veut inviter, qui veulent venir, mais ça n'aurait pas de valeur que de faire ça numériquement pour nous. En tout cas, on met l'accent sur cet aspect humain. L'aspect physique aussi, quand on est dans un studio, il y a un son, il y a une ambiance, il y a une odeur, il y a des gens. Et le faire depuis chez nous seuls, ça n'a effectivement pas le même goût. Je ne sais pas, okay. Si Sophie...
Non, j'ai pas grand-chose à ajouter.
Oh, maintenant... Par rapport aux initiatives, hein, tant qu'on y est, c'est vrai qu'on voulait parler quand même d'initiatives de fête qui existent quand même, de groupes comme par exemple un groupe Facebook qui a été créé par un collectif qui s'appelle Corona Fiesta et qui est une genre de radio en ligne, enfin un groupe en ligne qui invite d'autres DJ, d'autres invités et qui essaye d'assurer un service. un service d'ambiance, on va dire, tous les soirs, en proposant des DJ sets voilà, qu'on peut retrouver sur Facebook. Donc il y a, voilà, je trouve que c'est une belle initiative. Et puis ce week-end, par exemple, il y a également, alors je ne sais pas quand l'émission sera diffusée, mais il y a également un événement de prévu virtuel, donc une fête virtuelle organisée par la Choupi Chat, hein, qui permet justement de combler, de pallier un peu à ce manque de fêtes.
Merci Mathilde. Je vais faire réagir Sabine pour le Name Festival. Est-ce que vous êtes aussi sur une temporalité de festival, donc de programmation à long terme, d'anticipation au maximum pour l'édition suivante? Et comment vous envisagez-vous la suite? Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez fait un report de l'édition 2020 sur pas mal d'artistes. En 2021, est-ce que vous dites il faut qu'on aille vers le numérique aussi, comme en parlait Mathilde à l'instant? Est-ce que vous dites non, pour l'instant on garde ce qu'on sait faire et ce qu'on fait depuis pas mal de temps, de l'événement en présentiel sur mode festival? Quelles sont vous les perspectives à venir?
Bah, comme je disais tout à l'heure, je faire un festival en numérique, non, de toute façon j'en aurais pas les moyens. On en parlait tout à l'heure des entrées, enfin, du modèle économique. Et en plus, non, c'est du vivant. Moi, je fais du spectacle vivant, je fais du vivant, je fais des événements vivants. Donc, j'envisage pas ça du tout. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez. Toutes et tous, franchement, tenez le coup, parce que vous me faites, ça me fait mal au cœur de vous entendre, et que la richesse de notre territoire passe par vous. Donc, trouvez des moyens, mettez-vous en hibernation, mais quand ça va évoluer, cette situation sanitaire, et je pense qu'on pense tous à la même chose, c'est-à-dire le vaccin. Voilà, il faudra être là pour appuyer sur le bouton start. Ça me semble fondamental parce que il y aura des envies, mais c'est sûr qu'il faut aujourd'hui avoir une espèce de force mentale pour tenir le coup. Parce qu'effectivement, oui, là, on parle en ce moment des librairies, on ne parle plus du tout de la culture, ça va revenir. Mais franchement, tenez le choc, on peut en parler après ensemble pour discuter de choses très pratiques. Nous, le Name, on l'envisage, on l'a reporté tel quel au mois d'octobre 2021. Pour l'instant, on ne réfléchit pas. Pour l'instant, je ne sais pas ce qui va se passer au mois d'octobre 2021. J'espère que ce sera bien, mais ça peut ne pas être bien. En ce cas, ce sera heureux un report ou une totale annulation, j'en sais rien.
Très bien. Bon, ben, en tout cas, merci Sabine pour ce dernier message d'espoir et de tous ensemble. Voilà, c'est aussi l'objet aussi de cette rencontre aujourd'hui, parce qu'on se connaissait peut-être pas tous aujourd'hui. Ça a été l'occasion de se voir, mettre des visages, même si on n'est pas en présentiel on n'est pas en présentiel, on n'est pas autour d'une table, mais on a pu discuter, échanger des musiques électroniques à Lille et la métropole, voir comment ça se passait. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette rencontre. Merci à Haute Fidélité d'avoir permis cette rencontre dans le cadre des états généraux du droit à la fête initié par Culture Barbare. Je remercie Mathilde et Sofiana de What's Up on the Floor RCV 99 FM. Je remercie bien sûr le Jardin électronique avec Jean-Baptiste. Je remercie Sabine Dutoit pour Arc.m et le Name Festival, Lenny et Rémi du Martine Bruit et Corentin Mollet, Gazol et La Relève, et bien sûr Antoine Haute Fidélité. Bien sûr, on pourra réécouter cette émission avec plaisir si vous n'avez pas pu tout entendre et prendre des notes sur ce qui vient d'être dit. Merci.